Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour et bienvenue dans Happy Boulot le mag. C'était jeudi 6 mai, les assises de la parité, l'occasion pour nous de parler des femmes et du monde du travail. Qui a peur de la maternité? Certainement pas Pierre Monclos, c'est le DRH de YouKnow. Il signe une tribune pour dénoncer cette discrimination qui perdure dans nos entreprises au 21e siècle. On va le recevoir dans un instant. Et puis on va parler du pouvoir. On va recevoir Gaël Châtelain-Berry. Il écrit « Sois un homme, ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG ?» Oui ou non? On va lui poser la question. Et puis on va parler salaire. Quelle est votre juste valeur en tant que femme dans le monde du travail? Il y a une nouvelle application qui existe, ça s'appelle Ma Juste Valeur. On sera avec sa fondatrice dans un instant. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Pierre Monclos, DRH de YouKnow. Bonjour. C'est un organisme de formation à distance, 45 personnes, un réseau de 150 experts formateurs. Une crise qui se passe bien chez vous, puisque forcément la formation en distance est en pleine expansion. Donc vous n'êtes pas une des entreprises les plus sujettes aux difficultés financières. 6 millions de chiffres d'affaires en 2020. Ça bouge. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pas pour parler de formation, c'est parce que vous avez écrit une tribune sur la maternité et la gestion de la maternité dans les entreprises. Pourquoi aujourd'hui tout le monde a peur de la maternité?
Bien ça, je pense à un sujet qui fait peur parce qu'on le maîtrise pas bien et parce qu'on peut-être qu'on surestime l'impact de l'absence d'une personne en raison de sa maternité. Moi, le sujet, il m'est venu dans un entretien d'embauche il y a 3 ans quand j'ai précisé qu'on poserait pas la question à une candidate qui avait la trentaine de est-ce qu'elle a déjà des enfants ou des projets d'en avoir. Elle a été très surprise, elle m'a dit, mais dans les autres process, on m'a dit attention à ta réponse. Déjà, on m'a posé la question, on m'a dit attention à ta réponse. Et il y a un process qui a été interrompu parce que j'ai pas voulu me positionner là-dessus. Et en parlant autour de moi, tout le monde avait sa petite histoire de, bah oui, moi j'ai été discriminé, soit au moment de l'entretien d'embauche, soit au moment de mon évolution de carrière, soit au moment de mon évolution de salaire, j'ai été la seule à mon poste à pas avoir été augmentée, soit dans mon quotidien de travail. On m'a moins bien réintégré une fois que j'ai été absente parce que on m'a laissé comprendre que j'avais moins contribué au projet de l'entreprise.
Ça, donc dans les entreprises, on avance sur les sujets, il y a de plus en plus de femmes à des postes de direction, on avance sur les questions d'égalité de salaire, mais sur la question de la maternité, les femmes ont toujours peur de dire qu'elles sont enceintes, elles ont toujours peur au moment où elles le disent, quand elles reviennent, au moment où elles s'absentent, on n'avance pas là-dessus.
Exactement, on met le sujet sous le tapis, là où d'autres discriminations sont très choquantes. Ce sujet, on cherche plutôt à composer avec, en se disant je vais mentir, je vais cacher mes projets ou je vais négocier quelque chose, plutôt que de s'indigner. En même temps, même si on devrait s'indigner à chaque fois que c'est possible, les enquêtes montrent que on a peur de représailles. Vu que c'est un sujet qui est accepté, c'est plus difficile de s'indigner. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je prends la parole sur ce sujet pour dire il faut s'indigner. C'est au-delà de rappeler que c'est proscrit par le droit pénal quand même et de toutes les règles de morale et d'éthique qu'on enfreint quand on fait ça. C'est juste, on devrait intégrer tous les salariés et toutes les salariées avec leur projet de vie et de pas faire de ce sujet pour plusieurs mois d'absence, certes, on va pouvoir en parler concrètement de ce qu'on peut faire, pour discriminer et avoir des impacts sur le salaire, l'évolution de carrière et même le recrutement de personnes.
Donc on entend des chefs d'entreprise dire « Oui, mais comment voulez-vous que je fasse si sur une équipe de 10, j'ai 5 femmes entre 28 et 35 ans et que j'en ai 4 qui sont enceintes, comment voulez-vous que je fasse ?» Alors comment font-ils ?
Alors ça, c'est quand on pense la survie de l'entreprise. Je suis peut-être à 4 mois près si j'ai des personnes qui vont s'absenter. Bon, déjà, la première solution, on va parler d'évidence, hein, mais c'est d'anticiper le remplacement de cette personne. Soit ce ou cette chef d'entreprise est à 4 mois près pour une personne et son entreprise va couler, auquel cas il faut qu'elle le dise. Elle dit, bon, ben là, j'ai pas le choix, c'est pas une discrimination. Ça peut être assumé. Mais ça, c'est 0,1% des cas. Dans les autres cas, je pense que c'est une fausse excuse, que les personnes ne peuvent pas assumer de dire en fait je sais pas trop comment gérer et je préfère de suite miser sur quelqu'un dont je suis sûr qu'il sera là. Mais en plus c'est faux, la personne peut avoir un accident, la personne peut être un second parent qui va s'absenter très longtemps pour s'occuper sans forcément être la mère de l'enfant qui a accouché. Il peut y avoir plein de situations. Donc les mesures concrètes, c'est de s'engager, alors de communiquer, merci d'ailleurs de m'inviter ici pour qu'on puisse dire qu'il faut arrêter de nourrir cette discrimination et tous les DRH et tous les chefs d'entreprise devraient prendre position, dire dans notre entreprise voilà la politique qu'on a, voilà comment est-ce qu'on inclut les femmes et des mesures concrètes d'accompagnement. Là, il y en a plein. Nous, on n'est pas la première entreprise à se positionner là-dessus. On peut allonger le congé second parent. D'ailleurs, en 2019, beaucoup d'entreprises ont initié ce qu'on a appelé le Parental Act. Le gouvernement a suivi, pas à hauteur du mois complet de congés rémunérés à 100%.
Mais certaines entreprises vont beaucoup plus loin, c'est le cas de Kering notamment, ou d'autres, qui vont plus loin que le cadre législatif.
Oui, qui proposent 1, 2 et jusqu'à 4 mois. Il y a des entreprises déjà aujourd'hui, en France ou des législations en Europe,
pour les deux parents,
en Espagne, qui proposent 4 mois pour chaque parent. Ou d'autres pays, ça je pense que c'est une mesure intéressante qui pourrait inspirer des entreprises, qui disent on vous donne un nombre de jours et c'est les parents qui choisissent comment est-ce qu'ils les répartissent. Et c'est rémunéré alors par l'entreprise si c'est elle qui a les deux parents, et sinon c'est les deux entreprises qui voient entre elles comment ils se répartissent ces jours d'absence.
Donc pour vous, au-delà des mesures d'accompagnement un peu sur la longueur, ces fameux 4 mois qui sont les 16 semaines où la femme elle-même va s'arrêter pour accoucher, ça se gère. C'est-à-dire qu'en plus on a un calendrier, à part si on accouche un peu avant, globalement on sait quand est-ce qu'on va accoucher. Pourquoi on panique pour ces 4 mois ?
Eh bien peut-être parce que ceux qui font cette discrimination retardent la date de l'annonce de la femme qui a peur de l'annoncer par peur de représailles, par peur de discrimination. Du coup, déjà, c'est encore plus difficile de s'organiser, alors que quand on a une politique, on peut un peu mieux s'organiser à l'avance. Et pourquoi est-ce qu'on a peur ? C'est dur de répondre à cette question. Je pense que c'était ma réponse du début. Le sujet, c'est pas une discrimination qu'on considère comme aussi grave que d'autres. Moi, j'ai aucun malaise à comparer ça à que les femmes ne votent pas. Il y a quelques dizaines d'années, c'était il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, ça choque énormément. À l'époque, ça ne choquait pas tout le monde.
Aujourd'hui, on se dit, bah ouais, elle a été freinée dans sa carrière, elle n'a qu'à pas faire d'enfant, c'est
voilà,
normal.
Exactement, et ça ne choque pas tout le monde. Alors, ça en choque, mais pas assez. Et je pense que c'est un combat que nos générations et les entreprises d'aujourd'hui peuvent réussir à mener pour que dans 5, 10, 15 ans, j'espère le moins d'années possible, ça puisse être un non-sujet. Oui, c'est une discrimination qu'on combat. On s'indigne à chaque fois qu'on est sensibilisé à cette discrimination et on n'a pas peur de représailles.
Mais est-ce qu'il faut, par exemple, que l'entreprise ait un pool de remplaçants potentiels, de gens, d'intérimaires peut-être déjà formés avec qui elle sait qu'elle peut travailler ?
Ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, chez Youno, on est 45 salariés, donc on n'est pas une très grosse entreprise. On n'a jamais eu de problème quand on a eu des absences en raison de la maternité. Soit la personne, on a pu avoir des renforts d'autres salariés qu'on a mobilisés sur des missions, soit on a anticipé le remplacement, soit on a travaillé avec des freelances. Et en fait, la liste, elle est très longue. Il y a plein de moyens. Je pense que le premier moyen, c'est de prévoir un remplacement. Et souvent, quand on dit ça, on dit « oui, mais le temps de former la personne », déjà ça va me coûter de l'argent et puis c'est presque aussi long que le congé maternité. Bah oui, mais il y a une transition potentiellement si la personne ne revient pas, parce qu'après il y a un congé parental qui est posé, surtout quand on discrimine les femmes. Elles n'ont pas toujours envie de revenir, donc parfois c'est aussi pour ça qu'elles se disent bah moi je vais poser un congé parental pardon,
jusqu'aux 3 ans de,
on a quelqu'un qui est déjà formé sur le poste. Si l'entreprise grandit, elle pourra s'intégrer sur ce poste ou sur d'autres postes. En fait, ce problème là
peut
être une opportunité, mais il se pose dans plein d'autres situations et il n'y a que pour la maternité qu'on se pose la question. Quand il y a des accidents de la vie, quand il y a tout un tas de situations, les conséquences pour l'entreprise sont bien plus importantes que 4 mois d'absence qu'on peut anticiper.
Il y a le retour au travail, le fait de ne pas être disponible soi-même à 100% quand on a un bébé en bas âge, la gestion du mode de garde, et puis à retrouver son poste, ça c'est quand même une très grosse crainte.
Ouais.
Comment on pallie à ce problème-là ?
Alors surtout que dans une enquête du Journal des Femmes, c'est une femme sur 3 estime être mise à l'écart quand elle revient. Donc soit de son poste, soit de certaines missions importantes. Donc comment on fait ? On prévoit un accompagnement. L'une des entreprises inspirantes, c'est Dashlane, qui propose un mois qui est payé à 100%, mais qui est travaillé à mi-temps, pour qu'il puisse y avoir une reprise progressive. Cette même entreprise propose aussi ce qu'ils appellent des Mother's Room, une pièce qui est dédiée aux jeunes mamans pour pouvoir allaiter, tirer leur lait. En fait, il y a tout plein de choses qui existent déjà. Et justement, avec des DRH d'entreprises comme Dashlane, on va lancer un collectif qu'on appelle le pacte IDEA, inclusion, diversité, équité, accessibilité, pour s'engager publiquement, mais aussi partager toutes ces mesures concrètes. On peut continuer de parler de ces mesures concrètes au plus grand nombre, pour ceux qui, comme moi il y a 3 ans, je voulais agir là-dessus, mais j'étais jeune DRH, j'avais pas d'expérience de DRH dans ma précédente entreprise. Et la bonne volonté, c'est quelque chose. Si c'est pas suivi de faits, si c'est juste des engagements, on n'a pas vraiment d'impact et les discriminations, elles perdurent, surtout quand elles sont acceptées comme celles-là.
Vous voyez des femmes qui sont un peu traumatisées par cette période ?
Ah oui, alors moi, je prends la parole sur ces sujets depuis longtemps en interne, sur mon blog, c'est un article qui avait fait beaucoup de bruit. Et malgré ça, Quand j'ai une femme, ça m'est arrivé encore l'an dernier, qui m'annonce sa grossesse, elle redoute un petit peu ma réaction, et quand je lui dis bah génial, on va t'accompagner.
C'est quelque chose de très intime de dire je suis enceinte, qui arrive tout d'un coup dans le cadre du travail. C'est pas un moment forcément facile.
Et qui qu'on beaucoup de gens font croire que ça a pas sa place dans l'entreprise, alors que ça a sa place si on choisit de lui donner. Hein, il faut imposer ça à personne. Mais surtout en général, ce qu'on me dit, c'est moi dans mes précédentes entreprises, on m'a dit ne t'avise pas de nous faire un enfant pendant ton passage chez nous. Et donc forcément, ça conditionne et ça fait que certaines personnes se mettent des plafonds de verre là où la parole devrait être beaucoup plus libérée et plus aucune femme ne devrait subir ce tabou. Il y a aussi de l'autocensure, je l'entends, et après on me dit bon, je suis quand même rassurée, mais j'avais un peu peur de l'annoncer, on sait jamais. Là, donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, il faudrait que tous les DRH et toutes les entreprises s'engagent et prennent position là-dessus pour dire quelle est leur politique. Tout le monde n'a pas les mêmes mesures en fonction de sa taille et de son secteur d'activité. Il y a des métiers, on peut télétravailler, mais on propose beaucoup plus de flexibilité. Il y a des métiers, c'est pas possible, donc il faut prévoir des remplacements ou d'autres mesures.
Parlons maternité pour faire en sorte que ce sujet-là ne soit plus tabou. Merci beaucoup Pierre Monclos d'avoir été avec nous, DRH de Youno. Bravo pour votre engagement. On suivra, on verra si ça avance dans les entreprises.
Merci Laure.
À très bientôt.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va continuer de parler des femmes ensemble avec Gaëlle Châtelain-Berry. Bonjour, auteur, bonjour. Conférencier, chroniqueur, consultant, auteur de plein de livres avec des titres plus originaux les uns que les autres. Le plus connu,
Mon boss est nul mais je le soigne, je pense.
Ouais, et celui qui parlait de soi-même.
Je me trouve nul mais je me kiffe.
Voilà,
j'aime bien les titres.
Je me kiffe. Et là, cette fois-ci, c'est Soit un homme, ma fille. Faut-il être un homme pour devenir PDG? C'est l'histoire de Constance qui devient Constant, un homme, pour avoir du pouvoir, pour s'intégrer dans une entreprise et monter jusqu'à la tête de la boîte. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça pour diriger?
Écoutez, en fait, là, pour une fois, c'est un roman que j'ai écrit puisque tous les autres sont plutôt des essais. Et je voulais écrire sur le sexisme, mais quand on est un homme, on n'est pas forcément légitime pour le faire. Et j'ai trouvé que ce biais-là, d'utiliser cette femme, parce qu'on apprend dès la première page qu'elle annonce le lendemain à son conseil d'administration qu'elle va, enfin, elle annonce à son conseil d'administration que c'est une femme. Donc, on va suivre tout le parcours de cette femme et le pourquoi elle a fait ce choix-là. Et j'ai utilisé ce biais-là pour bien faire comprendre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est forcément gentille, c'est pas forcément parce qu'on est un homme qu'on est forcément méchant, mais par contre, toutes nos entreprises ont été construites sur justement des biais de genre et c'est un monde d'hommes avec des codes masculins et toute la difficulté est là. Et on voit bien, enfin je pense, j'espère en tout cas qu'on voit bien dans l'évolution de Constance que quand elle est dans la peau de Constant, ben elle devient un peu ordurière pour devenir PDGette de temps en temps.
Donc elle devient méchante comme le stéréotype de l'homme qu'elle a dans sa tête.
Parfois, oui. Parce qu'en fait, il n'y a parfois pas le choix. Et j'ai passé un peu plus de 20 ans dans les entreprises, et parfois c'est un vrai choix. Et je suis parti de certaines entreprises en faisant le choix de ne pas faire des choses qui m'auraient permis de gravir des échelons. Et j'ai démissionné, parce qu'on a toujours quand même ce choix suprême de démissionner. J'ai beaucoup de mal avec les gens en entreprise, et notamment les jeunes diplômés qui disent « Ah non, mais je peux pas aller me battre pour l'égalité salaire, ou je peux pas aller me battre pour un congé maternité, je peux pas aller me battre pour l'égalité parce que je vais être mal vu ». Mais oui, mais c'est un peu le principe d'être manager, c'est justement de faire évoluer les choses au lieu de rentrer dans un moule. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, si vous me permettez, sur BFM Business, une phrase un peu tartignole.
Allons-y.
À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par passer pour une tarte. Ouais. Et c'est un peu ça, en fait. Et donc ce livre, ce roman, c'est de montrer qu'on peut changer les codes, qu'il y a des codes à connaître, qu'on en a encore pour un sacré nombre d'années, malheureusement. Mais par exemple...
Mais est-ce que c'est un livre optimiste ?
Ah mais profondément. Profondément, parce qu'en fait, à un moment, elle rencontre une sorte de gourou qui va lui expliquer, mais Constance, quand vous allez dans un pays étranger, est-ce qu'il va être plus facile de demander à tous les étrangers d'apprendre votre langue ou au contraire d'apprendre la langue de ces étrangers ? Constance dit, bien évidemment, je vais apprendre la langue des étrangers. Et là, ce gourou lui dit, mais c'est exactement ça le monde de l'entreprise. C'est un monde qui a été construit au 19e siècle par des hommes, pour des hommes. Mis à part la veuve Clicquot au 19e siècle, il n'y avait pas de femme grande chef d'entreprise. Et donc, c'est optimiste pour dire, il y a une réalité, faut pas se mentir, faut pas être bisounours. Et cette réalité, à partir du moment où on commence à en prendre conscience, alors je vais pas vous parler de Lévi-Strauss et de toutes ces choses-là.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait évoluer? Ce sont certains rôles modèles, c'est les Sheryl Sandberg, c'est toutes ces femmes qui montrent qu'elles peuvent avoir des enfants, diriger une entreprise. Ça sert à quelque chose ou en fait c'est d'autres modèles encore avec d'autres injonctions qui font peur sur d'autres choses?
Moi, je pense que c'est le comportement de chaque manager, homme ou femme, et c'est de dire il y a des choses qui sont fondamentales et c'est pas parce qu'on est un homme, par exemple. Avec votre invité précédent, vous parliez de
maternité.
En
2021, la maternité, ça a fait encore peur à tout le monde.
Oui, mais Constance, justement, rate cette promotion qui lui donne cette idée de devenir un homme, parce que justement, à 28 ans, on lui dit « Ah ben non, on va préférer l'homme parce que lui, il n'a pas d'enfant. » Vous savez qu'il y a des pays qui ont résolu ce problème. La Suède, par exemple, quand un couple a un enfant, la femme a 3 mois, parce qu'elle travaille quand même un petit peu plus que l'homme, hein, pour donner la naissance, automatiquement 3 mois, mais ensuite, c'est le couple qui choisit de répartir une année entière, comme ils veulent. C'est-à-dire que potentiellement, si une femme, après ses 3 mois de congé maternité, et je suis sûr que vous connaissez des femmes qui avaient envie de reprendre plutôt vite, eh ben c'est l'homme qui peut prendre un an de pause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce biais de recrutement en Suède, parce qu'un homme qui a un enfant peut très bien.
Et on reprend à titre personnel le choix.
Ouais.
Le choix de vouloir retourner au travail ou le choix de garder son enfant.
Et c'est un choix de couple. C'est quand même, avoir un enfant, c'est un petit peu la chose ultime dans un couple, mais il y a aussi... Enfin, ça renvoie à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ça renvoie à plein de choses. Donc la loi peut changer des choses, mais encore faut-il en avoir conscience. Je crois qu'il ne suffit pas de dire « bouh, c'est mal » pour que ça
évolue. Oui, mais vous qui regardez les entreprises, comment ça se passe, les salariés évoluer, est-ce que vous avez l'impression que les femmes deviennent dures, justement, dès qu'elles accèdent à des rôles un peu importants pour faire comme les hommes et avoir une autorité?
Mais ce n'est pas qu'elles deviennent dures, c'est qu'elles sont obligées d'utiliser des codes qui sont les codes qui dirigent les entreprises depuis le 19e siècle. C'est exactement ce que je vous disais avec la langue étrangère. La question est maintenant, c'est est-ce qu'on les fait évoluer, ces codes? Et ils évoluent petit à petit. Heureusement qu'ils évoluent. Mais c'est lent, et ce livre, j'espère, ce roman, va amener sa petite pierre à l'édifice pour que des gens, des dirigeants, des dirigeantes prennent conscience que... Mais c'est vrai, il y a des codes incroyables. Pourquoi est-ce que dans une salle de réunion, c'est forcément une femme qui va prendre les notes? Moi, PDG, ce serait peut-être bien que je les prenne les notes de temps en temps. Et tout ce genre de petites choses qui paraissent anodins au quotidien, pour avoir beaucoup parlé avec des femmes en entreprise, c'est pas anodin du tout de dire « Ah tiens, tu pourrais nous chercher les cafés, s'il te plaît ?» Tout ce genre de tout petits travers qui est cumulé petit à petit... vont faire.
Mais aujourd'hui, on n'en est pas à Janine, tu vas nous faire un petit café. On va quand même pas demander à Janine de nous faire un café, sinon elle va mal le prendre.
Oui, mais c'est encore pire.
C'est horrible.
Oui, mais c'est pour ça. C'est un effet de levier, tous ces changements-là. Il y a d'abord la prise de conscience, et c'est bien. Et je crois qu'en France, on est plutôt très en avance sur ces sujets, sur la prise de conscience. La loi fait évoluer. Là, l'indice d'égalité femmes-hommes, maintenant qui est obligatoire pour même les entreprises de plus de 50, on va mesurer l'impact dans 5 ans, mais il est gigantesque. Il est absolument gigantesque. Et ensuite, ça va être les comportements au quotidien. Et effectivement, au lieu de dire ça va la vexer, on va même pas se poser la question du genre. Ça va prendre une génération ou deux.
Ça s'appelle « Sois un homme, ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG ?» écrit par Gaëlle Châtelain-Berry. Moi, ça m'a fait me demander si j'avais un zizi, j'aurais mieux réussi dans ma vie. Je crois que la réponse est non, donc j'ai trouvé ça quand même plutôt optimiste.
Petite anecdote quand même, pour finir, si vous permettez. Aux États-Unis, vous prenez 2 bébés, un homme, un petit garçon qui s'appelle John et une fille, peu importe son prénom. Le fait de s'appeler John lui donne beaucoup plus de possibilités de devenir PDG que la petite fille, quel que soit son prénom.
Mais il y a des jeunes femmes qui ont testé ça avec les levées de fonds et qui ont justement travesti leur nom pour voir si elles arrivaient mieux à lever des fonds, si elles avaient un prénom masculin. Et ça marchait effectivement beaucoup mieux. Merci Gaëlle Châtelain-Berry d'avoir été avec nous. On va continuer de parler des femmes et de leurs valeurs dans le monde de l'entreprise.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on continue de parler des femmes dans le monde du travail. On est avec Insaf El Hassini. Bonjour, vous êtes la créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur, fondatrice et directrice de l'ONG Lean in France. C'est l'ONG de Sheryl Sandberg.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette ONG, que les autres?
Alors bonjour déjà Laure Clausier, je suis ravie d'être là. Alors elle a rien de plus que les autres, en tout cas son objectif, l'objectif de Lean in France, c'est d'empouvoir les femmes dans le monde du travail, les aider à se réaliser professionnellement et aller au bout de leurs objectifs de vie et de carrière.
Vous dites empouvoirer.
Oui,
comme empowerment dans sa version française, leur donner du pouvoir.
Absolument, j'aime bien franciser ce
mot-là. Pourquoi elles en ont besoin? forcément les femmes. Pourquoi il faut comme ça les pousser? On voit le marché de la femme, franchement, il y a de quoi faire. Entre ceux qui veulent s'attaquer au salaire, le coaching, il y en a partout, c'est un marché énorme. De quoi ils ont besoin?
Alors, je pense qu'elles ont d'abord besoin d'être entendues. On dit souvent que les femmes ont besoin qu'on leur donne la parole, et je pense qu'elles apprennent très souvent. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas les entendre. Donc, moi, mon objectif, et c'est pour ça que j'interviens sur les deux jambes du problème avec Ma Juste Valeur, c'est d'un côté, j'empouvoir les femmes à prendre cette parole-là lorsqu'elles en ont besoin, et d'autre part, j'apprends aux entreprises et je les accompagne à écouter plus les femmes et leurs employés.
Pourtant, c'est pas votre boulot, vous n'êtes pas dans les ressources humaines, vous êtes avocate au départ. Pourquoi vous vous êtes dit il faut faire quelque chose pour les femmes ?
Alors, je suis une femme et j'ai moi-même été victime d'une inégalité salariale qui a été le début vraiment de mon aventure avec LinkedIn France et qui se poursuit aujourd'hui avec Ma Juste Valeur. Et j'ai été victime de ça et à un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, Insaf, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Eh bien, si je n'avais pas peur, j'utiliserais les techniques de négociation que j'utilise lorsque je négocie des gros contrats. Je les transposerais à la négociation de rémunération et je ferai en sorte que ces techniques-là ne soient plus que le privilège des initiés et des privilégiés.
Donc vous avez créé Ma Juste Valeur, c'est une méthode pour lutter contre les inégalités salariales. Vous voulez que toutes les femmes sachent négocier leur contrat?
Oui, en fait ce que je veux, avant tout, je veux que toutes les femmes soient en mesure d'être en mesure de vocaliser et verbaliser leur juste valeur face à un recruteur, leur hiérarchie ou un client. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque on va pas se le cacher, Laure, hein, les discussions autour de l'argent, c'est des discussions très compliquées que tout le monde préfère éviter. Et du coup, en fait,
mais homme comme femme, on n'est pas toujours à l'aise, quoi.
Absolument. Hommes comme femmes, et un peu plus en ce qui concerne les femmes, parce que en plus de cette discussion difficile et de tout ce tsunami émotionnel dans lequel on est piégé lorsqu'on veut saisir de la discussion autour de l'argent et de la rémunération, et ben pour les femmes on a le vernis du biais de genre qui vient en plus s'intercaler, et donc c'est compliqué d'en parler déjà en fonction de son rapport à l'argent. Et ensuite, c'est compliqué aussi de pouvoir en parler avec un interlocuteur ou une interlocutrice. Et du coup, c'est là où Ma Juste Valeur apporte de la rationalité, de la factualité. Et en plus, on objectivise ces discussions-là pour que ce ne soit plus quelque chose qui soit du domaine de l'émotionnel.
Alors, vous donnez un montant ? Voilà combien vous valez sur le monde du travail, une base de négociation ?
Absolument. En fait, l'objectif de Ma Juste Valeur, c'est de vous apprendre à aller découvrir la valeur de votre profil sur le marché de l'emploi. Une fois que vous l'avez découvert, vous pouvez faire émerger une fourchette de négociation qui est représentative de la juste valeur de votre profil sur le marché de l'emploi. Et une fois que vous avez cette fourchette en main, vous pouvez mettre en place une stratégie de négociation qui est alignée avec votre personnalité, vos objectifs de vie et vos objectifs de carrière. Et une fois qu'on a tout ça, l'objectif, c'est d'apprendre à aller le demander. Et là, on met en place tout un séquentiel de discussions où on fait référence à des éléments de langage qui sont neutres afin de pouvoir verbaliser et défendre sa juste valeur.
Sortir de l'émotionnel, c'est
absolument
ça, les éléments de langage qui sont neutres. Ça veut dire qu'un entretien ou une négociation, ça se prépare vraiment très fortement quand même.
Alors moi, je le dis toujours, hein, un entretien, quel qu'il soit de toute manière, mais c'est 90% de préparation et 10% d'exécution.
Ah oui, donc vraiment c'est la dernière ligne droite quand on est là. Qu'est-ce qu'il faut avoir vraiment en tête comme élément de langage quand on va justement aller négocier? Pour sortir de cette émotion dont on est, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent.
Absolument. Alors, la première chose que je conseille quand on est dans un projet de renégociation de rémunération, c'est de faire attention aux termes qu'on emploie. La sémantique est très importante. Si vous allez voir votre manager et que vous lui dites, Michel ou Dominique, je te sollicite ou je vous sollicite une augmentation de rémunération, vous allez avoir tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. En revanche, si vous allez le voir et que vous lui dites, Michel, Dominique, j'ai calculé mon ratio contribution-rétribution, il apparaît que celui-ci est déséquilibré, je sollicite un rééquilibrage de rémunération.
Mais il n'a rien compris si vous lui dites ça. Il se demande si c'est un piège.
Alors pas du tout, il l'a compris parce que là vous factualisez les choses. Vous avez mesuré votre contribution générale à une équipe et une entreprise, vous la mettez, vous la confrontez à votre rémunération globale et là vous regardez s'il y a un déséquilibre ou pas, et si c'est déséquilibré, vous sollicitez un rééquilibrage, un réajustement. Et là on est vraiment dans du factuel.
Il faut parler avec des mots techniques. Je sollicite parce que mon ratio n'est pas... Vous ne pouvez pas dire juste « je pense que je suis mal payée ».
Alors, je conseille justement d'utiliser des éléments de langage neutres. Alors, vous faites ce que vous voulez, ça c'est...
Oui,
chacun fait ce qu'il veut en fonction...
Neutre, et mieux dans l'exécution de l'entretien.
Les éléments de langage neutre sont sont une force dans l'exécution de l'entretien parce qu'elle va vous permettre de vous libérer de cette charge émotionnelle que vous avez vous déjà dans un premier temps liée à l'argent et du rapport que votre interlocuteur ou votre interlocutrice a avec l'argent. Et du coup, arriver avec des éléments de langage neutre qui font référence à des faits, votre contribution toute cette année à une équipe, à une entreprise, par rapport à votre rémunération, c'est des éléments de fait. Et comme les éléments de fait sont vérifiables, ils sont difficilement contestables.
Ils sont plus puissants. Merci beaucoup Insaf El Hassini d'avoir été avec nous, créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, même heure, même endroit. Bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.